Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, plongée dans les méandres de l'intelligence artificielle. À partir de 1989, trois matchs historiques opposent le champion d'échecs russe Garry Kasparov à un adversaire au sang froid, Deep Blue, un super ordinateur de la firme américaine IBM. Ces combats entre neurones et microprocesseurs vont cristalliser les craintes de voir la machine mettre l'espèce humaine échec et mat, à l'image d'un Terminator. Les échecs sont en effet la discipline de l'intelligence humaine par excellence. Alors qu'adviendrait-il si l'ordinateur était capable de faire mieux que l'homme dans ce domaine ? Garry Kasparov va ainsi combattre la machine avec sur les épaules le poids de l'avenir de l'humanité. Rien que ça, et sa réputation de meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Avec également une mission, maintenir la supériorité de l'humain sur l'ordinateur. Notre invité aujourd'hui, Laurent Alexandre, chirurgien, neurobiologiste, entrepreneur numérique et auteur de l'ouvrage intitulé « La guerre des intelligences, intelligence humaine versus intelligence artificielle » publié chez Jean-Claude Lattès l'an dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Enfin, dame prend pion.
Fou prend pion du cavalier.
Tour E8.
Je regrette, Franck, vous avez raté le coche. Dame à C3. Fou prend dame. Cavalier prend fou, échec et mat.
Ouais, c'est imparable. Bien joué.
Merci, Franck. C'était une partie très agréable.
Merci, Carl.
Cette partie d'échecs galactique est tirée d'un monument du cinéma, le film culte et hautement métaphysique 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. En route pour Jupiter, l'astronaute Frank Poole tue le temps en jouant avec son ordinateur de bord, HAL 9000. Et la machine bat l'homme à plate couture. Funeste présage. Dans le film de Kubrick, HAL finit par se rebeller contre les hommes qui l'habitent, signe que dans l'avenir, la machine pourrait dominer, voire exterminer l'être humain. Le film de Kubrick sort sur les écrans en 1968. Ce combat entre un homme intelligent et un super ordinateur autour d'un plateau d'échecs relève alors de la fiction, de la science-fiction même. Stratégie, force de calcul, intuition et même émotion, les échecs sont la discipline qui par excellence distingue les esprits humains les plus brillants. Construire une machine capable de les battre reviendrait donc à percer les secrets de leur intellect. Cela conduirait surtout à inventer une nouvelle forme d'intelligence, artificielle celle-là d'ailleurs. Dès les premiers pas de l'informatique dans les années 40, la question fait fantasmer ingénieurs et scientifiques. Pour écrire son scénario, Kubrick consulte l'un des pionniers de l'informatique, l'entreprise IBM. Le logo de la firme apparaît même plusieurs fois dans le film. Depuis sa création dans les années 50, ses ingénieurs planchent sur la conception d'intelligence artificielle. Ce n'est donc pas un hasard si c'est IBM qui défie l'espèce humaine plus de 20 ans après en organisant un combat contre l'un de ses super ordinateurs et l'un des meilleurs joueurs d'échecs qui soit. Mais le géant de l'informatique n'y serait peut-être jamais arrivé sans la foule d'une poignée d'étudiants passionnés. Pittsburgh, début des années 80. Un jeune Taïwanais, Feng Xiongshu, débarque sur le campus de la prestigieuse université Carnegie Mellon pour y intégrer l'un des meilleurs programmes de sciences informatiques des États-Unis. Le futur ingénieur détonne par sa personnalité un brin excentrique, aux antipodes en tout cas des clichés concernant les étudiants asiatiques. Il est vite surnommé par ses camarades Crazy Bird, oiseau fou. Son dada, la conception de puces informatiques. Les échecs? Oh, il sait y jouer, il a appris à l'école à Taïwan. Mais cela ne l'intéresse pas plus que ça. Jusqu'au jour où un ponte de l'université, le professeur Hans Berliner, lui demande de venir prêter main forte à son équipe d'étudiants attelés à la confection d'une machine à jouer aux échecs nommée Hitest. Il accepte. Mais la mayonnaise ne prend pas. Feng Tsiong trouve que ses camarades ont opté pour une méthode beaucoup trop compliquée, misant sur la force d'évaluation de leur ordinateur. Il ressort de cette expérience complètement frustré. Frustré mais combatif. Dans sa chambre d'étudiant, il tourne et retourne le problème dans sa tête. Quand soudain, il a une illumination. C'est sur la force brute qu'il faut miser, autrement dit, élaborer une machine qui puisse calculer le plus de coups possible pour trouver celui qui mènera au mat. S'il relève ce défi, l'étudiant marquera l'histoire, il le sait. Il décide donc de monter une équipe parallèle avec l'un de ses camarades spécialistes de codage, Murray Campbell, pour concevoir son propre ordinateur joueur d'échecs, Chip Test. Une audace qui passe mal à l'université. Le groupe d'étudiants n'est supervisé en effet par aucun professeur et entre en concurrence directe avec l'équipe d'Hans Berliner. Mais qu'importe, le jeu en vaut la chandelle. Nous sommes alors en 1985 et dans le monde des échecs, un autre petit génie est en train de bouleverser l'ordre établi. Non, Kasparov, prénom Gary, âge 22 ans. Au championnat du monde de 1985, il fait sensation en venant à bout de son illustre adversaire et tenant du titre Anatoly Karpov. Il devient ainsi le plus jeune champion du monde de l'histoire. Son exploit est relaté au journal de 20h sur Antenne 2 le 10 novembre 1985.
Kasparov à droite sent un tournant dans le match. Karpov le prudent vient d'attaquer. Kasparov se dit alors que seul l'audace paie, il sacrifie deux pions. Karpov le champion sait qu'il a perdu. À côté, on s'exclame sur ce coup inédit. Tout semble jouer. Victoire de l'imagination sur la technique, Kasparov a gagné. Explosion de joie dans la salle. Pour le père juif et la mère arménienne de Kasparov, c'est une revanche. Pour le monde des échecs, c'est le début d'une nouvelle ère. Pour les soviétiques, c'est un changement. Un marginal peu orthodoxe impose un style et devient héros national.
Ce champion-là fascine les médias du monde entier. Il faut dire que dans l'univers feutré des échecs, sa personnalité est remarquée. Originaire d'un village de l'armée soviétique, d'Arménie soviétique, Garry Kasparov est dissipé, bavard, contestataire autour de l'échiquier et dans la vie aussi. Il ne se prive pas de dire ce qu'il pense de la politique et de la situation sociale de l'Union soviétique qui vit alors ses dernières heures. Son comportement pendant les parties d'échecs est théâtral, il enchaîne grimaces et gesticulations en tout genre. Ce très fort caractère, doté d'une redoutable efficacité, lui valent ce surnom l'ogre de Bakou. Plus jeune champion du monde en 1985, il devient imbattable dans les années qui suivent. Pendant que Kasparov accumule les récompenses et les titres de champion du monde, de son côté, le petit groupe d'étudiants de la Carnegie Mellon University de Pittsburgh, autrement dit Feng Tianhu et ses camarades, continuent à travailler sur leur super ordinateur. Dopés eux aussi par un esprit de compétition aiguisé et la concurrence avec l'autre équipe d'étudiants, ils avancent vite. En mai 88, leur créature est fin prête. Ils la baptisent Deep Thought, pensée profonde, en référence au livre de science-fiction Le Guide du voyageur galactique du britannique Douglas Adams. Un nom à la hauteur de leurs ambitions. Ils ont nourri leurs poulains des données de centaines de parties d'échecs. Capable d'analyser 720 000 coups par seconde, il s'impose vite comme le plus performant. Deep Thought remporte le championnat nord-américain des ordinateurs en 1988, puis devient champion du monde dans la même catégorie un an plus tard. Tout cela est très bien, mais pour le moment, le bébé de Feng Tsiong ne bat que des tas de microprocesseurs. Il est maintenant temps de le mesurer à des êtres humains. Mais pas au commun des mortels, non. Pour savoir si Deep Thought est assez puissant, il doit se confronter à des grands maîtres. Et ses premiers combats sont plutôt encourageants. La machine vient à bout de deux champions, Bent Larsen et Tony Miles, lors d'une démonstration. Il est le premier à atteindre ce niveau. Du haut de son trône de leader incontesté au royaume des échecs, Garry Kasparov observe avec beaucoup d'intérêt les progrès de cet adversaire d'un nouveau genre. Adversaire constitué de puces électroniques et de silicium. Après 4 victoires consécutives contre Anatoly Karpov au championnat du monde, l'ogre de Bakou se cherche un concurrent à sa mesure. Il est en quête d'un nouveau challenge. Pourquoi alors ne pas défier Deep Thought, cette machine qui commence à menacer les vivants? Cela permettrait de remettre un peu de piment dans la compétition. Il serait surtout le premier à conquérir un tout nouveau territoire et ferait son entrée dans une sorte de quatrième dimension. Jusque-là, fantasmé, et il ferait un peu parler de lui au passage. Ce qui est très bien aussi. Alors pour Feng Tianzhu et ses camarades, l'occasion est belle. Ils viennent juste d'être embauchés par IBM pour continuer à développer Deep Thought. Ils vont pouvoir confronter leur machine aux meilleurs joueurs d'échecs du monde. Rendez-vous est donc pris pour le 22 octobre 1989. Le match a lieu à l'Académie des Arts de New York. Quelques minutes avant le début de la confrontation, une conférence de presse se tient dans une pièce adjacente à l'auditorium où la joute doit avoir lieu. Un peu impressionnés par la foule de journalistes, les jeunes ingénieurs répondent timidement aux questions. Mais ils sentent une atmosphère, disons, hostile. Deep Thought, leur création, intrigue autant qu'elle inquiète. Et personne ici ou presque ne veut voir la machine l'emporter. Kasparov lui saute d'impatience. Il va participer à une première mondiale. Confiant, il monte à la tribune pour y faire une déclaration dont voici un extrait tiré du documentaire The Chips vs The Cheese Master du documentariste américain Irvin Draslin, diffusé en 1991.
Si vous perdez dans les 5 prochaines années contre une super machine, quel effet pensez-vous que cela aura sur les échecs en tant que business et discipline créative?
Vous voulez dire dans les 5 prochaines années?
Ok,
merci. Ça signifie que je serai encore champion dans 5 ans. Merci pour ce compliment, je comprends. Je pense que nous pouvons trouver suffisamment de capacités humaines pour nous battre, en particulier contre les ordinateurs. Mais si les ordinateurs l'emportent un jour... Je ne sais pas ce qu'il arrivera ensuite. Je ne pense pas que les ordinateurs pourront être impactés, mais ce serait vraiment inquiétant, pas seulement pour les joueurs d'échecs, mais pour l'espèce humaine elle-même.
Défenseur de l'humanité, ni plus ni moins. C'est le rôle qu'endosse modestement Garry Kasparov au moment d'aborder son premier match avec Deep Blue. Historique, l'événement attire journalistes et grands maîtres d'échecs du monde entier, partagé entre peur et curiosité. Il est 15h. Le public a pris place dans les gradins de l'auditorium. La rencontre peut commencer. À gauche, avec les pions noirs, Garry Kasparov. Autour de lui, les flashs crépitent, mais en quelques instants, le joueur entre dans un état de concentration maximale. Face à lui, avec les pions blancs, Feng Tianzhu et son ordinateur. L'étudiant a la charge de déplacer les pions sur l'échiquier en fonction des ordres de Deep Thought. La machine, elle, se trouve à des milliers de kilomètres de New York. Feng prend l'air détendu et essaie de rester impassible. Il ne veut laisser transparaître aucune émotion. D'ailleurs, il n'est qu'un intermédiaire entre Kasparov et l'ordinateur. Cette première manche tourne vite à l'avantage de Kasparov. Dès le 18e coup, tous les spécialistes des échecs comprennent que l'homme va l'emporter. Et la machine lâche effectivement l'éponge 35 coups plus tard. Et bien voilà, l'espèce humaine ne semble pas si menacée. Pour la deuxième manche, Kasparov joue avec les blancs. Il ouvre le jeu avec sa reine et sacrifie son fou en échange d'une solide position au centre de l'échiquier. Et quand Deep Thought s'empare du pion, Kasparov lance un coup agressif. Il avance son roi de 2 cases. Arrivé au 10e coup, alors que le jeu en est encore qu'à sa phase préliminaire, Kasparov a entrepris une manœuvre très astucieuse. Faire penser à Deep Thought que son mouvement est erratique, alors qu'en vérité, ses forces sont solidement postées. Échec et mat, la partie est pliée avant même d'avoir commencé. Soulagement dans l'assistance, l'honneur de l'humain est sauf, son avenir aussi. À la sortie du match, devant les journalistes, Kasparov ne cache pas sa satisfaction.
Dois-je prendre la parole ? Ok, je m'en suis très bien sorti. Avant le premier jeu, j'étais inquiet parce que... Quand je joue face à un être humain, j'ai mon adversaire en face de moi et il y a une sorte de rapport de force entre nous. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas d'humain et pas d'énergie, mais une sorte de trou noir. Mais j'ai découvert une nouvelle source d'énergie parce que j'ai joué contre un ordinateur, mais l'assistance, elle, est faite d'êtres humains. Et tout le monde voulait exploser l'ordinateur parce que nous avons quelque chose en commun, nous sommes des êtres humains. Et merci beaucoup pour cette énorme source d'énergie.
Kasparov empoche 10 000 dollars pour sa victoire contre Deep Thought. Du côté de Feng Tianhu et de son équipe, la défaite n'est que relative. Car au lendemain du match, la majorité des commentateurs invitent à ne pas se fier à la victoire facile de Kasparov sur la machine. Non, ce n'est qu'une question de temps avant que le rapport de force ne penche en faveur de l'ordinateur. Ce petit bras de fer, mesdames, messieurs, n'était qu'un prélude. La guerre entre Garry Kasparov et Deep Thought, en d'autres termes entre l'humanité et les robots, ne va pas tarder à éclater. Et tous ont beaucoup à y gagner. Le roi des échecs, tout comme IBM.
IBM supprime d'un seul coup 14 000 emplois, 10 000 pré-retraite et vente d'une filiale avec ses 4 000 employés, un plan qui s'ajoute aux 10 000 de l'an dernier. Univers impitoyable que celui de l'informatique. Fini les années de croissance à deux chiffres, où le numéro 1 mondial doublait son chiffre d'affaires tous les 5 ans. Désormais, Big Blue, qui fait plus de 60% de son chiffre d'affaires à l'étranger, doit affronter un marché de plus en plus dominé par les Japonais. NEC, Fujitsu ou Hitachi grignotent de plus en plus un marché mondial équivalent à plus de 200 milliards de dollars. À vouloir miser sur les gros matériels, IBM s'est brûlé les ailes avec un chiffre d'affaires dans ce secteur qui est passé de 50 à moins de 30%.
Début des années 90, empêtré dans ses difficultés financières, IBM fait les gros titres. L'entreprise dégraisse à tour de bras, incapable de faire face à la compétition toujours plus féroce avec ses concurrents dans ce secteur des micro-ordinateurs. La success story de Big Blue, c'est le surnom de l'entreprise en référence à l'uniforme bleu de ses employés, s'arrête net. IBM doit absolument trouver de nouveaux marchés. Et c'est là que Deep Thought prend toute son importance. Pour IBM, l'enjeu est double. Les exploits de Deep Thought lui permettent de se faire de la bonne publicité. Dieu sait que l'entreprise en a besoin. Mais la montée en puissance de la machine permet surtout aux géants de l'informatique d'innover dans le secteur des superordinateurs et de l'intelligence artificielle. Son ambition va bien au-delà des échecs. Les performances de la machine doivent trouver des applications dans d'autres domaines plus commerciaux et fournir de nouveaux débouchés. Reste un problème, s'assurer que le grand public associe bien Deep Thought à IBM. La solution est vite trouvée. L'ordinateur est rebaptisé Deep Blue, une déclinaison du surnom d'IBM Big Blue. Deep Blue, le grand bleu, ce n'est peut-être pas aussi fort symboliquement que pensée profonde, mais IBM imprime sa marque sur son nouveau poulain et met de nouveaux moyens à disposition de Feng Xiongsu et son équipe. Les anciens étudiants de la Carnegie Mellon University prennent justement leur quartier au centre de recherche d'IBM Thomas T. Watson à Yorktown Heights dans l'État de New York. C'est dans cet environnement qu'ils se remettent au travail pour créer une nouvelle version de leur machine bien plus puissante. Il leur faudra 6 ans pour parvenir à leur fin. 2 mètres pour 700 kilos, Deep Blue est une belle bête. Le super-ordinateur RS6000SP est équipé de 256 microprocesseurs qui travaillent en parallèle. Pour faire simple, c'est un super-calculateur, un dévoreur de données aux capacités vertigineuses. Mais c'est encore Michel Bidot, chef de projet chez IBM France, qui explique le mieux le fonctionnement de l'ordinateur dans ce reportage de RFI en février 96.
Cet ordinateur est capable d'emmagasiner dans sa mémoire une quantité d'informations assez considérable, puisqu'il a mémorisé toutes les parties d'échecs depuis une centaine d'années. L'ordinateur est capable de faire des comparaisons de positions entre elles, et il est capable de faire ça très rapidement. Puisque l'ordinateur sait faire que des choses élémentaires, on va utiliser donc plusieurs ordinateurs en parallèle pour faire des choses élémentaires. Donc c'est un peu la force brute qui va battre le raisonnement de l'homme.
Comment se battre en effet contre 256 microprocesseurs affichant une vitesse de calcul vertigineuse? Habitués à employer toutes sortes de ruses face à leurs adversaires humains, les joueurs d'échecs se trouvent bien démunis face à ce nouveau type de machine.
Une force brute qui supplanterait le raisonnement de l'homme. Eh bien, cela reste à prouver. Et justement, humains et ordinateurs vont bientôt avoir une nouvelle chance de se mesurer. Février 1996, l'Association pour les machines informatiques, oui ça existe, fête son 50e anniversaire aux États-Unis. Pour marquer le coup, elle organise un duel entre Garry Kasparov et Deep Blue. Quelle aubaine si l'ordinateur l'emportait cette fois. La confrontation, en 6 manches, a lieu à Philadelphie à partir du 10 février. Dès la première partie, la tension monte d'un coup. Kasparov bâcle le début du match. Excès de confiance? Bon, il réussit ensuite à monter une belle attaque sur le roi adverse, mais l'ogre de Bakou semble perdre de vue que son adversaire est une bête de calcul. Deep Blue lance une contre-attaque qui change tout. Kasparov est déstabilisé. Ce mouvement est extraordinaire et terriblement humain. Kasparov sent une toute nouvelle forme d'intelligence juste là, en face de lui de l'autre côté de la table. L'alien, comme il la surnomme désormais, est nettement plus menaçante que son ancienne version. Alors le roi des échecs s'incline. ton est donné. Kasparov doit aborder les manches suivantes avec beaucoup plus de méthode. Il opte pour un jeu de position rigoureux et décide de changer de stratégie au milieu de chaque partie. Une tactique payante. Au moment d'aborder la dernière manche, il mène en effet 3-2. Et l'issue de cette dernière partie va rassurer la planète entière, comme on peut l'entendre ici le 18 février 1996 sur notre antenne.
Et oui, il peut applaudir le genre humain sauvé pour cette fois en tout cas. Kasparov l'a bien représenté. Le champion d'échecs n'a pas été englouti dans le grand bleu Deep Blue, le super ordinateur qu'il vient donc de battre aux États-Unis sur le score final de 4-2. Parce que Kasparov, il vit, il bouge, il fronce les sourcils quand il perd. Il veut aussi sa revanche. Et la machine, elle, ne connaît pas les sentiments. C'est une intelligence bête en quelque sorte, comme le dit Pierre Nolot, journaliste à la revue Le Joueur d'échecs, au micro de Robert Kudelka.
Le joueur a démontré sa supériorité sur la machine de manière évidente, au moins dans un domaine, c'est qu'à partir du moment où il connaît son adversaire, et bien il est capable de jouer en fonction de celui-ci et de s'améliorer de partie en partie, ce que n'est pas capable de faire l'ordinateur pour le moment. Cette dernière partie a été un écrasement total. C'est une partie, comme on dit, semi-fermée, et la machine a vraiment extrêmement mal joué. Finalement, et bien Kasparov a véritablement joué au chat et à la souris avec son adversaire, et les 200 millions de coups calculés par seconde n'y faisaient plus rien. Si ce n'est que la machine pouvait voir qu'elle était fichue très vite.
Kasparov l'emporte donc cette fois encore, mais la victoire n'a pas été aussi facile qu'il avait imaginé. L'expérience sera même bouleversante pour l'ogre de Bakou, enfin, d'après son coach. Ébranlé, il accepte le principe d'une revanche programmée un peu plus d'un an plus tard. Ce laps de temps va permettre aux 6 ingénieurs derrière l'alien de parfaire leur machine. Pour Feng Xiong et ses camarades, la seconde défaite est une déception. Ils réalisent qu'ils ont encore du chemin à faire avant de battre le meilleur joueur de tous les temps. Et IBM est prête à mettre le paquet pour que Deep Blue finisse par l'emporter. En tout, la firme américaine va investir plus de 10 millions de dollars sur l'engin. En fait, Feng Xiong, Murray Campbell et les autres ont tiré des enseignements de la débâcle. Deep Blue n'a pas encore assez de connaissances des échecs. Ils vont devoir lui faire avaler encore un grand nombre de données, mais surtout, il manque encore de subtilité dans son analyse de jeu. Alors, pour le faire progresser, ils vont avoir une idée brillante. S'adjoindre les services d'un grand maître des échecs, Joel Benjamin, 33 ans, un sparring partner de luxe. Pendant un an, le joueur affronte quotidiennement la machine. Il joue ce qu'il appelle « take back chess », autrement dit, il tend des pièges à l'ordinateur et décode ses erreurs. Dans son labo au centre de recherche d'IBM, Feng Xiong-Hu bâtit donc une nouvelle version de Deep Blue qui écrase la précédente lors des essais. Deep Blue, c'est le nom du nouvel ordinateur, mesure désormais 1,80 m pour 1,4 t de composants. Une machine qui lui permet de calculer la bagatelle de 200 millions de coups par seconde et de prévoir 12 coups d'avance. De son côté, Garry Kasparov s'entraîne comme pour une compétition avec un champion du monde, un humain. À maintenant 34 ans et après 12 titres mondiaux, ce nouveau match doit couronner sa carrière. La revanche entre le colosse de Silicium et Garry Kasparov est préparée comme un grand show. Les rues New York se parent d'affiches annonçant le match et les médias du monde entier envahissent la grosse pomme pour faire suivre cette nouvelle confrontation historique. IBM fait monter la pression en diffusant une publicité à la télévision américaine. On peut y voir Deep Blue, soit deux grandes armoires informatiques métalliques au milieu d'un terrain de basket, affronter David Robinson, un grand joueur de basket américain. Deep Blue est l'ordinateur d'IBM. Deep Blue est extrêmement doué. Il peut faire 3 millions de calculs par seconde. Mais il n'a pas de bras, martèle la publicité.
Deep Blue is actually an IBM RS6000 SP.
It's scalable.
Massively scalable.
Parallel processing.
Massively parallel.
A maxed out SP can do a trillion calculations per second. But no arms.
Arms are definitely a problem.
Bon, d'accord, pas de bras. Mais Deep Blue a quand même de sérieux avantages sur son adversaire. Il a d'abord, derrière lui, une équipe de 20 personnes, bien humaines. Mais surtout, il a pu ingurgiter toutes les parties jouées par Larry Kasparov. Le champion du monde, lui, n'a aucune information sur la façon dont la machine a été préparée. The Brain, Lars Land, le dernier territoire du cerveau. C'est le titre de Newsweek à la veille de la revanche entre Deep Blue et le joueur russe. L'enjeu est toujours le même, défendre le genre humain face à la machine. Mais Kasparov sent bien que toutes les chances ne sont pas de son côté. Il aborde cette nouvelle série de 6 parties avec beaucoup de nervosité. Le 11 mai 1997, Garry Kasparov retrouve donc son adversaire à New York. La rencontre a lieu dans un studio de télé situé au 35e étage. Les 500 spectateurs observeront les belligérants depuis l'auditorium sur grand écran. La mise en scène est soignée, une table a été confectionnée spécialement pour cette rencontre. Une horloge de luxe confectionnée par un grand artisan suisse trône juste à côté de l'échiquier. Tout le monde essaie de tirer profit de cet événement planétaire. Il est 15h. Garry Kasparov prend place à gauche. Face à lui, Feng Tsiong et les autres ingénieurs seront à tour de rôle les bras et les mains de Deep Blue. La partie d'ouverture démarre de manière, disons, classique. Kasparov mène. Mais tout d'un coup, la machine sacrifie un pion sans raison apparente. Le coup est raffiné. La machine prend l'ascendant psychologique sur son adversaire. Sauf que... elle bluffe. Cette manœuvre contre-intuitive est due à un bug informatique. Incapable de choisir entre deux options, la machine a joué au hasard. Mais ça, Kasparov ne le sait pas. Il réussit même à remporter la partie grâce à des coups non référencés par la théorie. Mais le doute s'est installé dans son esprit et l'affrontement bascule. Au 19e coup de la deuxième manche... enfoncé dans son fauteuil en cuir vert capitonné, Kasparov se prend la tête entre les mains, grimace, soupire. Acculé par les coups de Deep Blue, il rend les armes. Alors, stupeur dans le public, parcourut d'un frisson de frayeur mêlé d'excitation. Une possibilité de nul s'offrait à Kasparov. Pourquoi n'a-t-il pas joué ? Le cauchemar serait-il en train de devenir réalité ? Au cours des 3 parties suivantes, Kasparov parvient à prendre un léger avantage, mais ne le concrétise jamais. Deep Blue et l'ambassadeur de l'espèce humaine font match nul à chaque fois. A trop essayer de piéger l'ordinateur, l'ambassadeur de l'espèce humaine joue contre nature, des coups tordus, mal maîtrisés, et il le paie sur l'échiquier. Alors que la dernière partie commence, Garry Kasparov et l'ordinateur sont à égalité. Une victoire partout et 3 matchs nuls. La reine retient son souffle. Cette dernière manche est décisive. Mais l'ogre de Bakou a perdu de sa superbe. Il est déjà quasiment au tapis. Il tombe alors dans un piège d'ouverture classique qu'un champion de sa trempe aurait dû éviter. C'est fini pour lui. Ambiance de fin du monde dans l'audience. Le sang-froid de l'ordinateur aura finalement eu raison des émotions de l'humain. Même Feng Tianzhu et ses camarades ont du mal à savourer l'instant aboutissement de 12 années de travail, car ils ont bien conscience que le champion n'a pas joué son meilleur jeu. Et pour la montagne d'ego qu'est Kasparov, la pilule a du mal à passer. Écoutez ce reportage diffusé sur France 2 le 12 mai 1997.
Le geste est pathétique, l'heure est historique. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine. Il était certain pourtant d'en venir à bout. Cependant, l'intelligence a dû laisser place à la formidable puissance de calcul stockée dans les laboratoires d'IBM et implantée dans les entrailles d'un ordinateur d'une tonne et demie, doté d'une logistique et d'un centre de recherche aux moyens quasi illimités. L'homme, après avoir tâtonné, douté, souffert, n'avait plus que la 6e partie pour prouver sa supériorité. Il s'est incliné et ça n'est pas dans ses habitudes. L'ogre de Bakou, d'ordinaire impassible, a dû aller jusqu'au bout de l'humiliation. Il conteste à présent l'impartialité du match. Pour lui, les dés ont pu être pipés.
Je pense qu'il est temps pour Deep Blue de jouer aux vrais échecs. Et je peux vous promettre à vous tous que si Deep Blue joue à la régulière, Je vous le garantis, je le réduis en pièces.
Mauvais perdant, Garry Kasparov. En tout cas, il ne cesse de réclamer la belle dans les années qui suivent. Mais IBM refuse, catégoriquement. Et pour cause, l'entreprise a réussi son coup. Le lendemain de sa prouesse, sa cote en bourse explose. Feng Junshu et ses camarades se partagent le million de dollars de récompense, mais leur histoire avec Deep Blue touche à sa fin. IBM, en effet, décide d'abandonner le programme pour se concentrer sur d'autres projets d'intelligence artificielle. L'Alien et ses centaines de micro-puces prennent aujourd'hui la poussière dans une boîte au Smithsonian Institute de Washington, tel un cold case. Mais il reste dans les esprits comme celui qui a réussi à faire tomber le dernier rempart de l'humanité. Pour autant, et jusqu'à preuve du contraire, les ordinateurs ont encore besoin des hommes pour exister, et non l'inverse. Ouf.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Deep Blue, l'intelligence artificielle, avec notre invité Laurent Alexandre. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez de multiples casquettes. Hein. Vous êtes chirurgien, neurobiologiste, énarque, également entrepreneur du numérique. Vous avez notamment fondé le site Doctissimo. Et vous êtes également l'auteur de plusieurs livres, dont le dernier que je tiens entre mes mains, qui s'appelle « La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine », publié chez Jean-Claude Lattès l'an dernier. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans les documents qu'on a diffusés tout à l'heure, une journaliste de France Inter parlait d'intelligence bête. C'est un bel oxymore, l'intelligence bête. Est-ce que ça peut coller à ces ordinateurs intelligents ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est con comme une bite. Excusez-moi d'être vulgaire, mais elle n'a aucune intelligence au sens humain du terme. Mais il ne faut pas confondre l'intelligence au sens humain du terme et puis la capacité à régler des problèmes. L'intelligence artificielle nous écrase en cancérologie, elle nous écrase pour conduire une voiture, elle nous écrase pour analyser et faire le diagnostic d'un cancer de la peau. Google l'a montré encore récemment. Mais elle ne sait pas qu'elle existe, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Et donc l'intelligence artificielle joue au jeu de Go mieux que le meilleur des joueurs sur Terre, mais elle ne sait pas qu'elle joue au jeu de Go, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Il faut en fait différencier la conscience et puis l'intelligence. L'intelligence artificielle est bête et n'a pas de conscience d'elle-même, mais elle fait plein de choses mieux que nous. Et tout à l'heure, vous disiez en conclusion, l'intelligence artificielle a besoin de nous, mais on n'a pas besoin d'elle. Si vous étiez cancéreux, vous diriez pas ça. Parce que quand vous avez un cancer compliqué et qu'il faut analyser l'ADN de la tumeur, ce qui représente 20 000 milliards d'informations par cancer, par malade, je peux vous dire que vous avez besoin de l'intelligence artificielle parce que même le plus brillant des cancérologues sur Terre ne pourrait pas analyser les résultats de vos analyses chromosomiques de votre tumeur en moins de 1000 ans. Donc, dire que l'IA dépend de nous et que nous ne dépendons pas de l'intelligence artificielle, c'est une vision qui est très années 90, mais c'est pas la réalité de 2020.
Ce que je voulais dire, c'est qu'un ordinateur, faut bien qu'il soit construit, que si on le construit pas, on risque pas d'être débordé par son intelligence. C'est ça que je voulais dire.
Et nous, j'ai bien compris, mais en réalité, nous coévoluons. Ouais. En réalité, nous sommes interdépendants. Nous ne pouvons plus vivre sans l'intelligence artificielle. Et puis, plus ça va s'aggraver. Ne serait-ce que pour repérer les fake news, on a besoin d'intelligence artificielle. Comme on est submergé par les données, il faut forcément des intelligences artificielles pour nous aider à les traiter et à l'analyser. Et par rapport à l'époque, ce qui est fascinant, c'est le décalage entre, il y a 20 ans, la victoire d'IBM aux échecs face à Kasparov, et puis la victoire de Google au jeu de Go.
Ouais.
Quand Kasparov a été écrabouillé par IBM, le New York Times avait fait un grand papier en expliquant « Les échecs, c'est facile. Mais dans 100 ans, dans 200 ans, l'homme sera encore victorieux au jeu de Go et l'ordinateur est incapable de jouer au jeu de Go. Comme vous le savez, Google au jeu de Go a écrabouillé tous les champions du monde, les 100 meilleurs joueurs au monde, les a écrabouillés.
Les champions du monde de Go,
quand ils ont joué face à Google, avaient expliqué « on va mettre en pièces Google ». La même chose que Kasparov. Kasparov était persuadé qu'il allait gagner. Et d'ailleurs, dans son livre de mémoire, qui est sorti l'hiver dernier, Kasparov dit « J'ai mis 10 ans pour admettre la réalité. J'ai cru qu'il y avait un complot. J'ai cru qu'on m'avait menti. » Il a mis 10 ans pour admettre que l'intelligence artificielle l'avait écrasé aux échecs.
Pourquoi vous dites que l'intelligence artificielle nous écrase et qu'en même temps, vous dites qu'elle est d'un précieux secours pour l'évolution? Elle nous écrase ou elle nous aide? Ou les deux?
Elle nous dépasse. Mais pour l'instant, elle est notre domestique. En fait, il y a deux étapes. Il y a l'étape actuelle où l'intelligence artificielle est efficace, mais elle reste notre toutou, notre chien, notre domestique. Elle travaille pour nous. Et puis, il y a une étape putative. C'est la science-fiction dans le futur où l'intelligence artificielle pourrait nous dépasser.
C'est ça, c'est le vrai thème de...
Exactement, et pourrait chercher à avoir des objectifs propres. Pour l'instant, les technologies qu'on utilise en intelligence artificielle, qu'il s'agisse d'IA symbolique ou d'intelligence artificielle connexionniste, pour utiliser des mots du jargon des spécialistes d'intelligence artificielle, ne permet pas d'envisager l'émergence d'une conscience artificielle rapidement. Alors, il y a des gens pessimistes. Elon Musk, le propriétaire des automobiles Tesla, pense que l'intelligence artificielle pourrait zigouiller l'humanité dès 2030.
Donc, c'est demain, 2030.
Oui, mais Elon Musk est pessimiste. Et puis, on sait dans sa biographie qu'il était un enfant battu, son père le battait. Si ça se trouve, quand il pense intelligence artificielle, ce sont ses angoisses de castration et les cauchemars de l'enfance quand il était battu à coups de ceinturon par son papa qui ressortent. Je ne suis pas sûr que l'histoire d'Elon Musk n'ait pas une influence forte sur sa vision pessimiste de l'intelligence artificielle. J'ai peur qu'il projette sur l'intelligence artificielle la peur qu'il avait des coups de ceinturon de son papa.
Dans quelle mesure cette histoire qu'on a racontée, Kasparov contre Deep Blue, était un tournant, une bascule dans l'histoire de l'intelligence artificielle? D'ailleurs, est-ce vrai?
Alors, c'est une bascule parce qu'on était tellement persuadé que Kasparov allait écrabouiller IBM que c'est la première fois qu'on se rend compte, en réalité, qu'on est des gros prétentieux et qu'on imagine que la machine ne peut pas faire des choses que nous faisons. Et depuis, on a vu dans plein de domaines à quel point l'intelligence artificielle est capable de faire mieux que nous. Là, hier, une publication vient de montrer que pour diagnostiquer un cancer de la peau, l'intelligence artificielle fait beaucoup, 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 beaucoup mieux que les dermatologues. Et si on avait expliqué ça aux dermatologues en 1990, ils auraient hurlé de rire. Et pourtant, c'est la réalité. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas surestimer l'intelligence artificielle. Elle n'a pas de conscience d'elle-même, elle n'a pas de projet. Elle est aujourd'hui dans notre main, c'est notre domestique, comme je disais tout à l'heure, mais en même temps, elle fait des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais depuis la victoire d'IBM face à Kasparov, il faut savoir que les ordinateurs ont vu leur puissance multipliée par 1 million. Ouais. Aujourd'hui, les ordinateurs les plus puissants sur Terre, et ils sont chinois, font 93 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc, nous sommes rentrés dans un monde où l'intelligence artificielle reste très bête, mais elle est très puissante et est capable de faire des calculs très compliqués et d'avoir une forme d'intuition. The Economist s'est inquiété au printemps dernier et a fait sa couverture sur en titrant Nowhere to Hide. Nulle part pour se cacher. Et The Economist a fait état de deux publications récentes qui montrent que l'intelligence artificielle est capable, sur une photo de nous, de déterminer si on est hétérosexuel ou homosexuel, ouais, et de déterminer notre quotient intellectuel avec une assez bonne précision. Aucun individu n'est capable de déterminer la sexualité d'un individu sur une photo. Personne n'est capable de déterminer le quotient intellectuel de quelqu'un sur une photo.
Bien sûr.
L'intelligence artificielle en est capable. Donc, l'intelligence artificielle n'a pas conscience d'elle-même, mais elle a des embryons de conscience. Il faut arrêter de se moquer de l'intelligence artificielle, parce qu'il faut réfléchir à la façon dont nous allons cohabiter, coévoluer avec l'intelligence artificielle dans les décennies, dans les siècles, dans les millénaires qui viennent. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle, on ne va pas la débrancher dans 1000 ans ou dans 2000 ans. Nous allons devoir vivre avec l'intelligence artificielle jusqu'à la fin des temps.
Donc c'est une question du futur, hein, pas du passé, c'est sûr, c'est, du présent un peu, du futur beaucoup.
C'est une question fondamentale. Ouais. Comment allons-nous rendre toute la population compétitive face à l'intelligence artificielle? Comment éviter qu'il y ait des gens qui soient largués, abandonnés? Parce que vous voyez bien que l'intelligence artificielle va conduire les camions dans 10, 15, 20 ans. Mmh. Il y a 4 millions de camionneurs aux États-Unis et en Europe. Comment va-t-on reconvertir ces 8 millions de personnes en Occident? Il faut le préparer aujourd'hui, ça va pas se faire en 5 minutes. On va pas transformer les chauffeurs routiers en astrophysiciens ou en généticiens en 5 minutes. Il faut y réfléchir dès aujourd'hui.
Donc c'est un problème de l'humanité, c'est aussi une question économique. AlphaGo, dont on parlait tout à l'heure, hein, je rappelle, c'est un programme de DeepMind qui est une filiale de Google. Hein, qui
a filiale à 100%.
Ouais, qui a battu les champions du monde des jeux de Go. Alors je me dis, mais qui pilote l'intelligence artificielle? Si ce sont des entreprises qui pilotent l'intelligence artificielle, c'est aussi une vraie question.
Ah bah, de toute façon, c'est très clair. Il n'y a que 10 vrais producteurs d'intelligence artificielle sur Terre. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM et les géants chinois Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Ce qu'on appelle les GAFAMI et puis les BATX. Il n'y a aucun producteur d'intelligence artificielle en Europe. Vous savez que Apple se rapproche de 1000 milliards de valorisation à la bourse de New York, Amazon aussi, Tencent, le T de BATX, hein, vaut 550 milliards, c'est la cinquième plus grosse entreprise au monde. Et à côté de ça, les entreprises informatiques européennes sont faméliques et sont des tout petits kiki. Donc oui, le monde de l'intelligence artificielle est aujourd'hui contrôlé par les géants californiens et par les géants chinois. L'Europe est complètement passée à la trappe. Et puis la stratégie actuelle de l'Union européenne est suicidaire. Le règlement général de protection des données dont on parle et qui est censé nous protéger est en fait un élément qui va donner un Reich numérique très long aux géants du numérique américains. Parce qu'en réalité, sous couvert de protection des Européens, les nouveaux règlements européens avantage en réalité les géants du numérique.
Nous sommes les idiots utiles. On est
les idiots utiles. C'est-à-dire qu'effectivement, nous consommons l'intelligence artificielle américaine et puis bientôt chinoise. Et l'Europe n'a rien compris à la façon dont on produit des intelligences artificielles. D'ailleurs, il n'y a pas d'intelligence artificielle en Europe. Nous sommes des consommateurs, nous ne sommes pas des producteurs. En cela, nous devenons une colonie technologique, une colonie numérique des géants américano-chinois.
C'est trop tard pour rattraper le...
Vous savez, les géants français du numérique, on les connaît, Criteo, Blablacar, ils valent entre 1 et 2 milliards.
Et les autres?
Et les autres, ils sont à 1000 milliards.
D'accord.
Donc, nos géants à nous sont 1000 fois plus petits que les géants du numérique américain-chinois. Donc, sauf être délirant, nous ne pouvons que constater, sauf si on est un déni de réalité, que nos géants sont en réalité des nains avec des tout petits kikis, et que si on veut participer à la bataille technologique sur l'intelligence artificielle, il va falloir investir beaucoup plus que dans le plan Cédric Villani, qui est un premier pas intéressant, mais qui n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire que le plan Villani prévoit un petit peu plus d'1 milliard sur 5 ans. En réalité, il faut mettre des dizaines de milliards chaque année si nous voulons cesser d'être une colonie numérique des géants californiens et chinois.
Oui, vous parlez de l'État, mais est-ce que là, comme dans d'autres domaines, on voit des États qui s'investissent pas, qui se retirent, et on laisse ça aux mains des entreprises ?
C'est un peu plus compliqué que ça. En réalité, les géants du numérique californiens sont très proches du gouvernement américain. Et les géants chinois, les BATX, travaillent jour et nuit avec l'armée chinoise et avec le gouvernement chinois.
Donc,
le monde qui vient demain, c'est pas Google, Apple, Facebook, Amazon tout seul face aux Européens. C'est en réalité Washington et l'armée américaine aidée par les GAFA, et puis Pékin, l'armée chinoise aidée par les géants du numérique chinois, qui sont dans une bataille technologique pour prendre le contrôle du monde.
C'est l'union sacrée, c'est une sorte d'union sacrée quand même.
Quand vous contrôlez l'intelligence artificielle, vous contrôlez tout. Vous pouvez faire des voitures toutes seules, vous contrôlez le numérique, vous contrôlez le marché de la pub, vous devenez rédacteur en chef du monde. Il est clair que Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook, est le rédacteur en chef du monde. C'est lui qui décide du monde, pas au sens du journal du monde, mais du monde entier.
Oui,
c'est lui qui décide les informations qu'on va avoir, les informations qu'on va pas avoir. Et quand Facebook censure un site, ce site meurt, il n'existe plus, il n'apparaît pas, il est caché aux yeux du monde. Donc oui, nous sommes aujourd'hui dans une vassalisation culturelle, technologique et politique qui est très importante. Il faut qu'on investisse beaucoup et il faut sortir du déni de réalité.
Alors, on l'a dit, en deux décennies, l'intelligence artificielle a fait d'immenses progrès tout de même. En 2016, à l'occasion des 20 ans du premier combat de Deep Blue de Garry Kasparov, nos confrères du journal de France 2 se sont livrés à une drôle d'expérience, un plateau réalisé par une intelligence artificielle. On écoute.
Nicolas Châteauneuf, on s'interroge donc sur cette histoire qui s'accélère. Alors, quelles applications, quelles conséquences? Mais êtes-vous bien, Nicolas Châteauneuf? Est-ce que c'est bien vous?
Pas vraiment, David. Pour la première fois sur un plateau de journal télévisé, vous avez un journaliste en version numérisée. J'ai été créé de toutes pièces par une start-up nantaise.
Donc, êtes-vous un humain ou une machine?
Eh bien, si nous discutions quelques minutes et que vous n'arriviez toujours pas à répondre à cette question, cela voudrait dire que je pourrais être une intelligence artificielle. C'est l'un des critères pour en définir une. Aujourd'hui, certains logiciels de discussion arrivent à tromper leurs interlocuteurs humains. Et puis, on pourrait peut-être même imaginer qu'un jour, les journalistes soient remplacés par des robots virtuels. En attendant ce jour funeste, j'aimerais bien reprendre ma place, si vous permettez.
Ah, c'est quand même mieux comme ça. Je vous préfère comme ça.
Laurent-Alexandre, faut-il que je m'inquiète, moi aussi? Est-ce que je vais bientôt me faire voler mon travail par une intelligence artificielle?
J'ai écrit un papier il n'y a pas longtemps. Les bons journalistes ne sont pas déboulonnables par l'intelligence artificielle avant des décennies. En revanche, les piscopies vont bientôt mourir.
Bah ouf alors, hein. Dernière question pour résumer. L'intelligence artificielle, amie ou ennemie de nous-mêmes, humains?
À court terme, c'est une amie qui va nous aider à vivre plus longtemps, à traiter mieux nos cancers, à conduire nos voitures pour qu'on ait moins d'accidents. À long terme, c'est plus incertain. Il y a des gens très pessimistes qui pensent que l'intelligence artificielle peut nous dépasser. Mais aujourd'hui, on est dans un vrai brouillard. Dans la guerre des intelligences, j'imagine une quinzaine de scénarios. Il est impossible aujourd'hui de savoir quel scénario va se dessiner. Et quand on interroge ce qu'un média américain fait, les 100 meilleurs spécialistes mondiaux sur l'intelligence artificielle, il n'y en a pas deux qui ont la même réponse à votre question. Donc moi, je ne me permettrai pas de répondre. Une chose est sûre, si nous voulons exister demain, si nous voulons ne pas être le Zimbabwe des années 2080, l'Europe va devoir bosser, elle va devoir garder ses bons chercheurs, ses bons ingénieurs. Et aujourd'hui, dans le mercato mondial des cerveaux, nous avons pris beaucoup de retard. Il faut savoir que Google paie ses meilleurs spécialistes d'intelligence artificielle 2 millions de dollars, pas par an, par mois. C'est vous dire le travail que nous avons à faire quand on sait qu'un bon chercheur au CNRS gagne 3000 euros par mois.
Oui, c'est un problème qu'on connaît, effectivement. On en parle.
C'est pire que les journalistes.
C'est pire que les journalistes. Moi, je dis qu'on connaît, je pensais pas aux journalistes. Je dis qu'effectivement, c'est une thématique qui est parfois soulevée à juste titre. D'ailleurs, merci infiniment, Laurent Alexandre. Je rappelle le titre de votre livre, La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine, chez Lattès. Merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Deep Blue et l'intelligence artificielle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Jérémy Guillon qui était à la technique aujourd'hui. Rendez-vous demain, même endroit, même heure, nous évoquerons Don Quichotte, le film maudit à suivre sur France Inter après le flash, bien sûr, Antoine Decaune avec Pop Pop Pop.